Alors, bonjour monsieur.
Bonjour.
Pierre-Yves Le Bouin, notre entretien du 16 novembre dernier sur l'identité européenne a été très suivi. Cela confirme que cette question est centrale dans les préoccupations des Européens. Vous nous avez indiqué avoir reçu depuis lors de nombreux commentaires et des interrogations aussi. Pourriez-vous nous en dire plus?
Mais merci déjà, cher monsieur Wittmann, de me permettre de revenir aussi vite sur le Frankreich Blog pour une deuxième interview. Ça m'a fait plaisir que la première interview que nous avons faite à Paris il y a maintenant 2 semaines sur le thème de l'identité européenne, thème que je trouve tellement important intellectuellement, historiquement et politiquement, et suscité l'intérêt des lecteurs du Frankreich Blog et plus largement aussi des personnes que nous étions parvenus à toucher à travers les réseaux sociaux. J'ai reçu bon nombre de commentaires et de questions, en effet, ayant trait, pour l'essentiel d'entre elles, aux limites de l'Europe. Clairement, les lecteurs ont fait le lien entre l'identité européenne et l'appartenance à un ensemble dont les limites, ou à tout le moins les frontières, ne sont pas dans leur esprit fermement définies. En soi, l'interrogation que j'ai vue se dessiner à travers les commentaires est, je la cite un peu, qu'est-ce qu'être européen si l'extension du territoire de l'Union européenne est un processus sans fin? Dans l'interview que nous avions faite à Paris il y a 2 semaines, j'avais abordé, je pense trop rapidement d'ailleurs, cette question sur la prise en compte des limites géographiques de l'Europe, parce que elle constitue pour moi l'une des raisons pour lesquelles l'émergence de l'identité européenne est un processus aussi long. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de citoyens européens, sincèrement européens dans l'âme et dans le cœur, qui ont du mal à appréhender l'identité en tant que telle, parce qu'ils ont l'impression que l'espace européen est un espace qui ne connaît aucune forme de limite et qui donc ne les caractérise pas suffisamment par rapport au reste du monde. Moi, je pense que c'est un sujet important de parler des limites de l'Union européenne, des limites géographiques, mais aussi des limites politiques, historiques, parce que dans le moment que nous traversons, le moment actuel, c'est presque un sujet anxiogène dans le corps social. Et il faut pouvoir aborder, oser aborder même ce sujet dans le débat public, dans l'intérêt de l'Europe, pour éviter qu'il ne devienne un tabou.
Quelles sont précisément pour vous les limites de l'Europe?
La première limite, c'est la géographie. Même s'il faut reconnaître que les limites de l'Europe de ce point de vue sont plutôt conventionnelles. À l'ouest, exemple d'où je viens, en Bretagne, au nord, au sud, le marqueur, c'est l'océan. Mais à l'est, ça n'est pas le cas. L'Europe n'a pas d'unité physique. Finalement, elle est une partie d'un super continent qu'on appelle l'Eurasie. Une petite péninsule, finalement, de ce continent. Et c'est aux ambitions du tsar Pierre le Grand, qui était soucieux d'ancrer la Russie en Europe, donc à l'ouest de ce continent, et au cartographe qui s'appelait Vassili Tatichev, qu'il avait engagé pour délimiter les frontières européennes de la Russie, que l'on voit aujourd'hui l'idée communément acceptée que l'Europe s'arrête à l'Oural et au Caucase. Mais lorsque vous glissez de la seule géographie au texte européen, c'est-à-dire que si vous allez vers l'article 49 du traité sur l'Union européenne, on y lit, et je le cite, tout État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l'Union. Mais le traité ne définit pas ce qu'est un État européen, à la différence des valeurs européennes qui l'énumèrent à l'article 2. Et donc, la géographie doit être prise pour une indication précieuse, importante, mais non déterminante. Les limites de l'Europe sont d'abord politiques, historiques et culturelles.
Diriez-vous que la Turquie est en Europe?
C'est l'une des questions, quelque part, qui sous-tendent cette interrogation et, pour un grand nombre de personnes, probablement, cette crainte dans le débat sur les limites de l'Europe. Si vous prenez la seule géographie, à l'exception de la Thrace orientale, la Turquie ne se trouve pas en Europe. Mais prenez d'autres pays, comme la Géorgie, comme l'Azerbaïdjan, comme l'Arménie. Eux non plus ne sont pas en Europe. Et pour autant, tous ces pays ont avec l'Europe des liens culturels forts, déterminants même, que nul ne conteste. Tous appartiennent au Conseil de l'Europe. Et la Turquie a même été l'un des tout premiers États à rejoindre le Conseil de l'Europe quelques mois après sa fondation en 1950.
La demande d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne fait débat. Quelle est votre position?
Merci de me poser cette question. C'est une question qui, à l'évidence, se cache beaucoup derrière l'interrogation qu'ont un grand nombre de concitoyens sur les limites de l'Union européenne. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas favorable à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Ce n'est pas une décision, un sentiment que j'ai construit facilement, ni même rapidement. Ma position, au demeurant, ne se fonde pas sur la géographie dont j'ai juste parlé, pas davantage qu'elle ne se fonde sur la religion, pour dire les choses directement. D'ailleurs, j'estime que l'Union européenne ne peut pas être un club chrétien. Non, les raisons de mon opposition à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne sont tout autres. Elles ont à voir avec l'attitude de la Turquie depuis le début des négociations d'adhésion avec l'Union, il y a maintenant plus de 13 ans. Elles ont à voir aussi avec le recul terrible des droits fondamentaux dans le pays ces dernières années. Et puis enfin, elles ont à voir avec la politique étrangère de la Turquie. J'ai le sentiment que la Turquie entend entrer dans l'Union européenne à ses conditions, dans un rapport de force permanent, un peu rude avec l'Union, et c'est quelque chose qui tranche énormément avec tous les élargissements de l'Union depuis le premier jusqu'au tout récent. Or, entrer dans l'Union européenne, c'est d'abord accepter l'acquis communautaire. Il n'y a aucune forme de négociation autour de l'acquis communautaire, pas davantage qu'il n'y en a autour des valeurs de l'Union européenne. C'est aussi, entrer dans l'Union, respecter scrupuleusement les critères que l'on appelle de Copenhague, sur les libertés et sur l'état de droit. Enfin, il n'y a pas de place dans l'Union européenne pour un État candidat qui ne reconnaît pas un autre État, lui déjà membre de l'Union européenne. Or, c'est le cas de Chypre, qui n'est pas reconnu par la Turquie, et la Turquie occupe, au demeurant, depuis près de 50 ans, un tiers du territoire de Chypre. Enfin, lorsque l'on regarde dans une perspective maintenant bien tracée, les tendances profondes de la politique étrangère de la Turquie, il y a une forme de dimension qu'on appelle un peu néo-ottomane qui se détache et que je juge personnellement très divergente des politiques menées par l'Union européenne dans le domaine des relations extérieures. Pour toutes ces raisons, tristement, sincèrement, j'estime que la Turquie ne peut pas rentrer dans l'Union européenne aujourd'hui.
Mais fermer la porte de l'Europe à la Turquie, n'est-ce pas exposer l'Union européenne à des difficultés, et en particulier au regard du rôle joué par la Turquie dans la crise des réfugiés?
Je ne pense pas qu'il s'agisse de fermer la porte à la Turquie, bien au contraire même. Mais il s'agit de reconnaître que la perspective d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ne mène malheureusement nulle part. Il y a une quinzaine d'années, comme je le disais dans la réponse à votre précédente question, j'aurais probablement pensé différemment. J'avais même idée que la Turquie serait précieuse politiquement et diplomatiquement pour l'Union européenne en raison de sa position géographique entre l'Europe et l'Asie, et que cela justifiait en soi qu'elle puisse adhérer à l'Union européenne. Et puis j'ai évolué. Je me suis aperçu que cette vision que j'avais était excessivement idéaliste et malheureusement démentie par des faits. Je pense aujourd'hui, 2005-2018, 13 années et demie de négociations, qu'il faut vouloir nommer les choses. Parler du fait que ces négociations engagées mènent à une forme d'impasse politique. Tout le monde le sait. La Turquie elle-même le sait. Et pourtant, tout le monde fait plus ou moins encore semblant. Je crois qu'on ne fait pas rien de bon dans le non-dit ou dans l'ambiguïté. C'est une toute autre relation avec la Turquie qu'il faut imaginer, une relation qui soit franche, une relation qui soit ambitieuse, qui soit équilibrée, dans l'intérêt de l'Union, bien sûr, mais dans l'intérêt de la Turquie. Et cette relation pourrait reposer sur partenariat étroit, en particulier sur l'acquis en lien au marché unique, de sorte que le boom économique turc puisse s'exercer à travers l'Europe. C'est important aussi d'imaginer que cette relation à construire avec la Turquie soit assortie d'exigences en matière d'état de droit et de respect des libertés fondamentales.
Les États des Balkans occidentaux rejoindront-ils l'Union européenne?
Oui, dès lors qu'ils rempliront les conditions posées par le traité. La Serbie, le Monténégro, la Macédoine et l'Albanie ont déjà le statut d'État candidat. Et les négociations ont d'ailleurs démarré avec les deux premiers, Serbie et Monténégro. J'entends qu'il est question que les négociations démarrent en 2019 pour la Macédoine et l'Albanie. Quant à la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, ce sont des candidats potentiels. Les pays des Balkans sont des pays profondément européens. L'histoire, d'ailleurs, nous le rappelle depuis longtemps, depuis la Grèce antique et l'Empire romain d'Orient.
Vous connaissez bien ces pays qui se trouvent dans votre ancienne circonscription de député de Français de l'étranger. Quels sont leurs défis sur le chemin de l'Union?
C'est vrai, que j'ai arpenté passionnément ces pays pendant plusieurs années et il s'y trouve une forme d'envie fiévreuse de l'Europe, contagieuse, belle, parfois excessive aussi d'ailleurs. Et à force d'échanger, d'y aller, je me suis parfois, souvent, demandé ce qu'aurait été ce monde si la Yougoslavie n'avait pas disparu, si elle avait survécu à la chute du communisme, si la structure fédérale qui la caractérisait était resté en place et l'avait accompagné jusqu'à la démocratie. Ça ne s'est pas produit. Si cette structure était restée en place et si le chemin vers la démocratie avait été ainsi tracé, sans doute que la route vers l'Europe aurait été facilitée. Aujourd'hui, dans les Balkans occidentaux, c'est autant le vivre ensemble entre les États voisins, autrefois membres du même pays, que ce chemin vers l'Europe qu'il faut encourager et qu'il faut soutenir, pas simplement par les mots, mais par les actes et par les budgets. Il y a à l'évidence un travail immense qui est à effectuer par chacun de ces pays dans le sens d'une consolidation de l'état de droit, de la défense effective des libertés fondamentales et de la lutte contre la corruption. Soyons honnêtes, et je pense qu'il faut, ce sont des pays qui partent pour beaucoup d'entre eux de loin, ce travail va demander du temps et beaucoup d'abnégation. Mais c'est à ce prix et à ce prix seulement que les Balkans occidentaux pourront à terme rejoindre l'Union européenne.
Et les autres, l'Ukraine, la Moldavie, les pays du Caucase, les Biélorusses et même la Russie ont-ils vocation à rejoindre l'Union européenne?
Prenez la Moldavie et l'Ukraine. Ces deux pays souhaitent que leur soit reconnue une perspective européenne au sens de l'adhésion. La vérité, c'est que cela paraît relever malheureusement de la mission impossible. Ils doivent faire face aux mêmes défis que les pays des Balkans occidentaux en termes d'état de droit, de liberté fondamentale et de lutte contre la corruption. Mais à cela se rajoute la difficulté supplémentaire que constitue la permanence de l'influence russe. Dans ces deux pays, mais aussi dans le Caucase, la Russie joue, disons-le objectivement, contre les progrès de la démocratie et contre l'émancipation par rapport à son influence. Elle occupe en Ukraine, en Moldavie, en Géorgie, des parties de territoire de ces pays en violation du droit international. Elle est présente militairement en Arménie, cette fois-ci dans le cadre d'un accord avec l'Arménie. Quant au Bélarus et à l'Azerbaïdjan, qui sont les deux autres pays concernés, des présidents quelque peu autocrates avec une relation à tout le moins distendue avec la démocratie. Moi, je tends à penser qu'il vaut mieux prendre acte de cette situation, non pas pour abandonner ces pays, pas du tout, mais pour imaginer une association de ces pays avec l'Union européenne, autrement que par un processus d'adhésion qui serait à tout le moins hasardeux et extrêmement lointain. Donc, imaginons une association. Ce doit être d'ailleurs quelque chose que l'on conçoit dans le cadre de la politique de voisinage de l'Union européenne que le traité de Lisbonne en 2017 présente, et je veux citer cette expression qui est importante, comme devant établir un espace de prospérité et de bon voisinage fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.
Vous aviez consacré un rapport parlementaire à la politique du voisinage de l'Union européenne en 2014, n'est-ce pas? Comment la jugez-vous 4 années plus tard?
Des progrès ont été réalisés. Mon rapport date d'il y a maintenant presque 5 ans et objectivement, des progrès sont là. Je vois surtout tout le potentiel de la politique de voisinage de l'Union européenne pour les pays concernés et aussi indirectement pour les relations de ces pays avec leurs propres voisins, ce que l'on a appelé dans la terminologie de la politique de voisinage les voisins des voisins. Et donc Russie incluse de ce point de vue. Mais le bilan reste cependant en dedans, parce que finalement, lié à des objectifs qui à l'origine étaient définis de manière trop vague, alimentant d'ailleurs l'idée que la politique de voisinage serait la première étape de l'adhésion, un processus d'adhésion à l'Union européenne. Aujourd'hui, la politique de voisinage, cela concerne 16 pays, au sud et à l'est de l'Europe. Cela repose sur une relation bilatérale entre chacun de ces pays et l'Union européenne, mais aussi sur deux processus régionaux, le partenariat euro-méditerranéen et le partenariat oriental. La politique de voisinage devait constituer un cercle d'amis de l'Union européenne, stable, prospère, vivant en bonne entente et partageant les mêmes valeurs. Malheureusement, nous n'y sommes pas encore. Cette politique en particulier n'a pas eu d'impact réel sur le règlement des difficultés et des conflits dans le voisinage de l'Union européenne. Mais pourtant, elle est une perspective nécessaire et je dirais même cruciale, à condition de mettre prioritairement l'accent sur la promotion des réformes concrètes, c'est-à-dire de sortir d'un cadre vague et précis des réformes concrètes dans le domaine de l'état de droit, dans le domaine de l'économie, du développement de l'activité économique. Et j'insiste, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur probablement fortement, en raison de mon expérience au Conseil de l'Europe, sur le soutien à la jeunesse et sur le soutien à la société civile de chacun de ces pays. Parce que c'est par la jeunesse et par la société civile que l'on parviendra à aider ces pays à se mettre en mouvement.
Et finalement, cette carte de l'Union européenne, articulée autour de la géographie et des valeurs, s'élargirait aux 6 pays des Balkans occidentaux et n'irait pas plus loin. Est-ce bien cela?
Oui, ce sont les limites que je vois. Et je veux dire immédiatement après que la tâche d'explication et la justification de jusqu'où va ou ira l'Union européenne est primordiale, parce qu'il s'agit de rassurer. Comme je l'expliquais un peu plus tôt, il y a dans ce débat une dimension anxiogène qu'il faut savoir reconnaître. Ces questions-là ont été tenues à l'écart du débat public trop longtemps et ce n'est pas sain. L'identité européenne, d'ailleurs, restera virtuelle si l'on fait peur aux gens, si on ne leur parle pas suffisamment et si finalement on fait l'Europe à l'écart des Européens. Vous voyez d'ailleurs, prenons cet exemple avec le Brexit, où mène l'exploitation politique, parfois électoraliste, des peurs. Notre entretien aujourd'hui nous conduit à aborder l'élargissement de l'Union, alors qu'en réalité, la perspective la plus probable et la plus immédiate dans le temps, si la Chambre des communes approuvait dans quelques jours, le 11 décembre, l'accord entre les 27 et le Royaume-Uni, ça n'est pas une addition, mais pour la première fois une soustraction que nous aurons en Europe, nous passerons de 28 à 27 États membres et perdons une partie du territoire de l'Union européenne. Au-delà de l'Union européenne, et cela vaut pour tous les pays dont j'ai parlé, y compris d'autres pays tels la Suisse, la Norvège, l'Islande, qui sont davantage à l'ouest de l'Europe, mais pas dans l'Union européenne. Une maison commune qu'il nous faut renforcer, c'est le Conseil de l'Europe, dont tout le monde est membre, à l'exception du Kosovo et du Bélarus. Je souhaite vraiment, et pour moi c'est presque un élément de conclusion à ce débat sur les limites de l'Europe, je souhaite vraiment que le travail de fond qui est infiniment précieux, malheureusement trop peu connu du Conseil de l'Europe, soit reconnu. Et sur les libertés, sur les valeurs, sur l'état de droit. Et que l'Union européenne fasse bien davantage qu'elle ne le fait aujourd'hui, appel aux institutions du Conseil d'Europe. C'est-à-dire que ces deux grandes organisations européennes travaillent main dans la main davantage demain qu'elles ne le font aujourd'hui, et aujourd'hui déjà du travail est fait, et qu'à l'origine. Il y a là une complémentarité au regard des circonstances, au regard des défis qu'affronte l'Europe, qu'il faut vouloir considérer et mettre en place. Et j'espère que l'année 2019, qui sera l'année pour l'Union européenne des élections européennes, du renouvellement de la Commission européenne et pour le Conseil de l'Europe, de l'élection d'un nouveau secrétaire général et de la présidence française du Comité des ministres, qui démarrera en mai de l'année prochaine, que tout cela soit l'occasion de renforcer, fortement les liens entre les deux grandes organisations européennes.
Merci Pierre-Yves Le Boigne pour vos réponses.
Merci, Monsieur Wittmann.